Micro ouvert.
Micro ouvert.
Un poème de Robert Desnos. Donc, et maintenant, un poème de Robert Desnos. Les espaces du sommeil. Dans la nuit, il y a naturellement les sept merveilles du monde, et la grandeur, et le tragique, et le charme. Les forêts s'y heurtent confusément avec des créatures de légende cachées dans les fourrés. Il y a toi. Dans la nuit, il y a le pas du promeneur et celui de l'assassin et celui du sergent de ville et la lumière du réverbère et celle de la lanterne du chiffonnier. Il y a toi. Dans la nuit, passent les trains et les bateaux et le mirage des pays où il fait jour, les derniers souffles du crépuscule et les premiers frissons de l'aube. Il y a toi. Un air de piano, un éclat de voix, une porte claque, une horloge, et pas seulement les êtres et les choses et les bruits matériels, mais encore moi qui me poursuis ou sans cesse me dépasse. Il y a toi, l'immolé. Toi que j'attends. Parfois, d'étranges figures naissent à l'instant du sommeil et disparaissent. Quand je ferme les yeux, des floraisons phosphorescentes apparaissent et se fanent et renaissent comme des feux d'artifice charnus. Des pays inconnus que je parcours en compagnie de créatures. Il y a toi, sans doute, ô bel et discret espion. Et l'âme palpable de l'étendue, et le parfum du ciel et des étoiles, et le chant du coq d'il y a 2000 ans, le cri du paon dans des parcs en flammes, et des baisers. Des mains qui se serrent sinistrement dans une lumière blafarde, des essieux qui grincent sur des routes médusantes. Il y a toi, sans doute, que je ne connais pas, que je connais au contraire, mais qui, présent dans mes rêves, t'obstine à t'y laisser deviner sans y paraître. Toi, qui restes insaisissable dans la réalité et dans le rêve. Toi, qui m'appartiens de par ma volonté de te posséder en illusion, mais qui n'approche ton visage du mien que mes yeux clos, aussi bien au rêve qu'à la réalité. Toi, qu'en dépit d'une rhétorique facile où le flot meurt sur les plages, où la corneille vole dans des usines en ruine, où le bois pourrit en craquant sous un soleil de plomb. Toi, qui es la base de mes rêves et qui secoue mon esprit plein de métamorphoses. Dans la nuit, il y a les étoiles et le mouvement ténébreux de la mer, des fleuves, des forêts, des villes, des herbes, des poumons de millions et millions d'êtres. Dans la nuit, il y a les merveilles du monde. Dans la nuit, il n'y a pas d'ange gardien, mais il y a le sommeil. Dans la nuit, il y a toi. Et dans le jour aussi.
Love Me Tender, on continue cette fois avec une voix de femme après celle de Rainer Maria Rilke, le poète allemand. On va enchaîner avec Asai qui va nous lire un texte de Jana Cerna, poétesse, auteure, autrice tchèque, dont elle va nous parler.
Pas dans le cul aujourd'hui, écrit par Jana Cerna dans les années 60. Un chant de liberté totale et viscérale sous la forme d'une lettre d'amour écrite à son amant philosophe sous le régime communiste en 1962, Tchécoslovaquie. Voilà, c'est une métaphore du féminisme, un refus de se soumettre à la primauté masculine, mais aussi la volonté de rechercher des nouveaux possibles. Un espace où sexualité et activité intellectuelle ne s'opposeraient pas. Donc je vous laisse apprécier. Mon amour, mon amour, mon amour. Je sens toujours ton baiser sur mes lèvres. Voilà sans doute la pire des banalités, mais c'est comme ça. Et je suis assez vieille pour ne pas être obligée de craindre les banalités. Assez vieille et assez amoureuse. Si j'avais tendance à dramatiser, je deviendrais fataliste et je croirais que notre relation a quelque chose d'inéluctable. Mais je ne suis pas fataliste. Et je me dis donc simplement que Dieu est puissant et que sa volonté soit faite, surtout lorsqu'elle correspond si parfaitement à ce qui m'est agréable. Un spectateur indifférent pourrait dire que si nous ne nous étions pas rencontrés, bien des choses nous auraient sans doute été épargnées, mais moi, je ne souhaite pas que me soit épargnée une seule de nos merdes communes, ou un seul de nos malheurs, ou malheurs apparents. Et c'est sans doute pour ça qu'ils n'ont pas été épargnés, Dieu en soit loué. Je n'ai jamais été trop encline à me comporter de manière raisonnable. Sans doute simplement parce que je ne suis pas du tout raisonnable. Ou parce que tout ce qui est sain et raisonnable me répugne d'une manière presque physique. Tout ce que j'ai fait dans ma vie et dont j'ai eu honte, je l'ai fait parce que c'était raisonnable. Non merci, sans façon, gardez-moi de la peste, du typhus et de l'esprit raisonnable. Le raisonnable, ce sont ces affiches anti-alcooliques, la gestion d'État, les préservatifs et la télévision, c'est la poésie stérile qui sert la bonne cause. Pour l'amour du ciel, épargnez-moi le raisonnable. J'ai assez de vitalité pour en supporter plus que n'importe qui d'autre, mais le raisonnable me ferait mourir en moins d'une semaine de la mort la plus triste qui soit. Il m'ôte toutes mes forces, qu'elles soient érotiques, intellectuelles ou autres. Donc je veux bien croire que ce n'est pas parce que je suis raisonnable que je me dis que si nous restons ensemble, ce ne sera qu'après une décision vraiment libre. Et c'est justement parce que je n'ai pas une miette de cette vanité si respectée et honorée dans ce monde irrationnel que je ne sais pas m'imposer de limites, ou plus exactement que je refuse de m'en imposer. Elles ne sont pas de mon monde. Si je sens ton baiser, je veux un autre baiser. Et je me dis qu'il en soit ainsi. Ah, tu ne sais même pas à quel point je suis fière. Bon, tu n'ignores sans doute pas que j'ai toujours eu tendance à l'être. Mais tu ignores à quel point je suis fière de t'avoir, de ce que tu m'aimes, car je pense que tu m'aimes. De t'aimer à mon tour, de toi, de ta manière d'être, de qui tu es. Je parle très sérieusement, mon Zbinek, plus sans doute que tu ne peux l'imaginer. Il serait certes vrai de dire que j'ai de l'estime pour toi, mais ce ne serait pas toute la vérité, juste un petit bout. Autre chose me remplit de fierté. La certitude de ton exceptionnelle originalité. Je n'admire pas ton intellect. Je le tiens pour tout naturel, ça va de soi. Mais ce qui m'excite presque physiquement, c'est ton mélange fantastique d'intellect et d'une irrationalité absolue et frénétiquement logique.
cette poésie philosophique, cette philosophie poétique dont nous avons un peu parlé aujourd'hui, mais dont la portée dépasse de très loin les bornes de notre conversation. Car ce n'est pas qu'il y ait deux sphères côte à côte, la philosophie et la poésie, c'est que leur fusion donne naissance à une troisième chose dont on ne saurait sans doute même pas saisir la valeur. Il n'est pas de plus grande erreur que ta peur du charlatanisme, même si elle est tout à fait compréhensible. Le vrai charlatanisme, ce sont ces écoles à produire des philosophes diplômés, ceux qui ont obtenu leur brevet de pensée philosophique. Mais quelle ignoble et effroyable absurdité que de tester quelqu'un sur la connaissance de X manuel et de lui octroyer le titre de philosophe. Ce n'a rien à voir avec la philosophie, pas plus que moi avec une ménagère modèle. Tu écris dans une de tes lettres que ton travail philosophique, tu l'as fait dans les cafés, auprès de ma chatte, dans le désespoir, le cynisme et la bassesse, mais sûrement pas dans les bibliothèques. Voilà pourquoi ton travail est tel qu'il est, voilà pourquoi il a servi à d'autres fins que purement philosophiques, qu'il peut être un point de départ et une base sur laquelle construire. Je ne crois pas et je ne croirai sans doute jamais qu'en philosophie on puisse parvenir où que ce soit à pied sec, en suivant la voie de l'érudition, de l'instruction policée. Bon sang, bonsoir, mais qu'y a-t-il de plus excitant que la philosophie? Et qui donc y ferait quoi que ce soit de bon en éliminant cette excitation orgasmique? Ça, je vous le demande. C'est comme si on voulait se servir de pilules aseptisées et inoffensives pour baiser. Sauf que la philosophie n'est pas inoffensive pour la santé et ne peut pas se pratiquer ainsi. Arrête! S'il te plaît, de te traumatiser parce que ta philosophie n'est pas assez rébarbative pour orner le rayonnement de bibliothèques académiques. C'est sa supériorité et non son défaut. Et c'est surtout son plus grand espoir. S'il te plaît, ne laisse pas cet espoir se noyer dans les gouttes d'une sueur érudite. Le bon Dieu t'a gratifié de qualités rares. D'où te vient donc l'arrogance de croire qu'elles sont la source de tes complexes? Et où prends-tu le courage de vouloir t'en débarrasser juste parce que quelques imbéciles ont à ce sujet une opinion, ou du moins ce qu'ils osent appeler une opinion, et même une opinion différente de toi? Pas de ton opinion, mais de toi-même. Tu comprends? Si tu t'es jusqu'ici senti obligé de produire ta philosophie dans les cafés, cela s'est avéré bénéfique. Pourquoi donc ce besoin crispé d'érudition et de labeur? Si un jour ce besoin devient vraiment spontané, alors soit, bien entendu. Mais une de tes qualités en partie innée et en partie assez chèrement acquise et payée, c'est justement cette harmonie entre la nécessité et la signification. Ce qui veut dire que tu as surtout éprouvé le besoin de faire ce qui a du sens, même si en fait c'est à un moment donné un sens que tu ignores ou qui ne se révélera qu'au bout d'un certain temps, voire d'un temps certain. Fais confiance à ceux dont l'autodénigrement sont des péchés mortels. Oui, vraiment et littéralement mortels, des péchés qui font mourir. Et peut-être même plus encore que l'arrogance. Tu dois en effet avoir conscience de tes capacités, ne serait-ce que pour savoir les mettre à profit, pour en faire ce pour quoi elles t'ont été accordées. Il te serait bien difficile de répondre un jour que tu t'es laissé aveugler par quelque chose d'aussi louche qu'un complexe d'infériorité. Car l'humilité dans cette acception n'est pas une vertu. L'humilité dans cette acception est au mieux de la connerie. Et encore dans le meilleur des cas. Tu as une imagination absolument fantastique. D'ailleurs, j'ai lu quelque part une phrase tout à fait magique selon laquelle l'imagination est une chose que certaines personnes ne peuvent pas imaginer. Cette vision-là qui te donne des longueurs et des longueurs d'avance. L'imagination qui est le terreau nourricier de la poésie et de la philosophie, mais aussi de ce qui n'a pas encore de nom, ce qui résulte de leur mélange homogène. Et rien ne serait pire que si tu corsetais et entravais cette imagination par des axiomes tirés de dictionnaires philosophiques, si tu la cadenassais dans une pièce pour qu'elle ne te dérange pas dans ton travail, celui que tu ferais dans la pièce d'à côté. Comprends-moi bien, mon chéri. Tout cela est inséparablement lié. Le fait que je t'aime et que je veuille coucher avec toi est lié à ma passion pour ton travail. Il est vraiment difficile de faire la part entre l'excitation due à ton corps, que je connais si intimement, et celle qui vient de n'importe laquelle de nos discussions. C'est vraiment, vraiment difficile. Quand je suis au lit avec toi, je peux parler philosophie. Et quand on en parle à table, ma chatte peut se tenir au garde-à-vous. Car on ne peut pas séparer les choses et les abstraire l'une de l'autre. Je veux passer des heures à bavasser pour pouvoir coucher avec toi. Et je veux baiser avec toi pour parvenir à ces heures de discussion. Je veux, mais non, il me faut savoir que même cette baise et ces heures passées à bavasser ont un lien avec ton travail. Tout cela n'aurait aucun sens si ce lien n'était pas aussi étroit et serré et imbriqué que je me le figure. Peut-être en arriverons-nous un jour au point d'être vraiment ensemble avec tout ce que cela comporte et ce sera plus que le bonheur, mais je déguerpirai sur le champ, à l'instant où ça aura perdu ce sens réel, unique et véritable. Je déguerpirai pour épouser un ingénieur commercial possédant une Sparta Skoda, hein, parce qu'il n'y aura plus aucune différence dans ces cas-là. C'est clair. Et surtout, en fait, il faut que je sache toujours tout sur toi. Souviens-t'en, mon chéri. Je dois savoir tout, absolument tout. Peu m'importe ce que tu as fait si tu n'es pas rentré chez toi d'une semaine, peu m'importe pourquoi tu es rentré tard pour le dîner et sous au point qu'il a fallu te porter, ça je m'en passe fort bien. Mais je dois savoir ce qui t'amène ou au contraire te fait partir, savoir tout ce qui compte. Je ne suis pas Hussite, je ne crois pas à la véracité, même pas à la tienne. Je veux dire à celle qui existe couramment entre deux personnes qui vivent ensemble. Tu avais promis de rentrer à 2h, tu rentres à 8h et encore avec une semaine de retard, tu vas me dire tout de suite qui est cette pute qui t'a détourné du foyer conjugal. Et lui de répondre que ce n'est pas une pute, que c'était la fête du camarade directeur. Mais tu comprends bien, ma chérie, que je pouvais pas lui dire non. Ce qu'elle voudra bien admettre jusqu'au jour où on lui apprendra que cette pute est une blondasse cagneuse. Il s'ensuivra une scène larmoyante. Mais comment as-tu pu ? Puis une réconciliation entre les draps qui aura pour conséquence à la fois une prolifération de la famille et une autre pute. Cette fois-ci, une brune. Ah ça, merci. Merci. Je peux vraiment m'en passer. Mais j'ai toujours besoin de savoir que tu partages avec moi ce qui compte. Jusqu'à la limite où cela peut se partager et peut-être même un peu au-delà. Non parce que je le veux, ni même parce que toi tu en aurais besoin, mais parce que cela peut te servir, parce que tu sens et tu sais qu'un contact aussi étroit fait partie de toi, donc aussi de ton travail et qu'il est créateur. Il faut que je le sache, ne serait-ce que pour avoir le courage d'être avec toi, pour être sûr d'en avoir le droit. Comprends-tu ? Je t'aime infiniment, c'est la vérité. Le verbe aimer est un peu absurde ici, hein, parce qu'il s'agit d'autre chose encore. Je suis liée à toi par tout ce qui m'est propre. Et c'est encore autre chose qu'aimer. Mais voilà justement pourquoi je suis absolument libre dans cette relation. Et je peux non l'anéantir, mais anéantir sa réalisation si celle-ci devait l'abaisser au niveau banal des atrocités conjugales commises contre le corps et l'esprit. Et voilà justement pourquoi je ressens de manière si aiguë ce qui est bon ou mauvais. Je voudrais que tu sois absolument sûr de moi. Comprends-tu ? Et là encore, pas de cette certitude conjugale imbécile, celle-là nous nous en fichons. Je voudrais que tu sois sûr que je t'appartiens absolument. c'est-à-dire que je ne ferai rien, je ne penserai rien qui ne serait pas en quelque mesure en rapport avec toi, qui te mette en danger. Je voudrais, et c'est la toute première fois que cela m'arrive, que tu te sentes en sécurité auprès de moi. Autant que je le suis auprès de toi et encore plus, parce que ça ne doit pas être juste une sécurité impersonnelle face à Dieu sait quoi, à mon intellect ou à mon mode de vie. Je voudrais que ce soit une sécurité qui ne concerne que toi et n'existe que pour toi. La sécurité d'une confiance indestructible et d'une intimité invulnérable. Comme je te l'ai déjà dit, c'est la première fois de ma vie que j'ai un tel désir. Je ne l'ai jamais voulu pour personne. Et je n'ai pas su le vouloir pour toi durant toutes ces années. Il faut savoir aimer et j'ai payé cher pour l'apprendre. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais ce dont je suis sûre et certaine, c'est que ce temps et ce prix-là m'ont permis de comprendre ce que c'est que d'aimer et tu es le seul homme avec qui je puisse avoir une relation digne de ce mot profané et banal, mais pourtant clair et précis. Je voulais t'en parler un peu aujourd'hui, mais je sais pas, j'arrivais pas à sortir les mots, je crains pas la banalité, les grands mots ne me font pas peur s'ils se justifient, mais j'ai vécu toute notre rencontre avec trop d'intensité pour pouvoir beaucoup m'exprimer. Mon amour. Bon, tu n'es pas fâchée que je m'étale comme ça, en rentrant dans toutes ces broutilles, tous ces détails. N'est-ce pas, mon chéri? J'espère que tu n'es pas fâchée. Et je me figure qu'il est bon de dire ces choses, même si elles vont sans dire. En fin de compte, le langage est quand même un moyen de communication. Il a été inventé pour cela. Et il faut se hâter de dire ces choses pour qu'elles ne nous fassent pas trébucher ou perdre du temps. Nous avons d'autres soucis. Voilà. J'ai enfin trouvé le mot. Pardonne-moi de sauter du coq à l'âne, mais c'est l'ingénuité. Pour la première fois de ma vie, j'ai une liaison amoureuse ingénue. Et je l'ai avec toi, mon amour. Je m'en réjouirais en braillant à pleine voix s'il n'était pas minuit et demi et si je n'avais pas de voisin qui aurait du mal à le comprendre étant dénué de relations ingénues et de toi. Bon, j'y suis pour rien s'ils sont pauvres, mais peut-être qu'ils n'aimeraient pas que je leur fasse remarquer. Mais voici en gros où en sont les choses. S'il arrive quelque chose de douloureux ou d'affligeant, je suis capable de le prendre comme tout ce qui se rapporte à cette relation, comme sa partie intégrante, que je n'ai pas besoin d'esquiver, même si je ne la désire pas. Ce n'est pas la peine que je me méfie par avance, non que je serai tellement forte, mais parce que ma relation à toi est aujourd'hui complète. Trop complète pour qu'on puisse y découper des morceaux comme dans un goulash tendineux. Voilà ce que je prends, voilà ce que je recrache. Trop complète pour qu'il soit possible de ne pas accepter tout ce qu'elle apporte. S'il te plaît. C'est quoi là? C'est quoi cette bêtise? Pourquoi t'es pas là? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Que je puisse pas t'embrasser là, maintenant. Que je puisse pas m'étendre. Près de toi, te caresser. T'exciter et m'exciter par toi. Que je puisse pas te sucer jusqu'à l'orgasme et te sentir entre mes jambes et rire ensuite avec toi. Parce que ta barbe empeste, au point de donner une érection au contrôleur du tram qui poinçonnera ton billet. Que je puisse pas livrer tout mon corps à ta dévastation, à commencer par mes nichons et ma chatte, et jusqu'à mon cul, pour que tu les baises et les rebaises, et puis te forcer de ma langue artistiquement plongée dans ton cul à balancer ta sauce, le visage tordu par le spasme. Pourquoi? Est-ce que je peux pas te sentir en moi, presque immobile, dans une tendresse poignante, érotique au point d'être sentimentale, que je ne peux pas coincer ta queue entre mes nichons et les essuyer ensuite, toute fière, plein de sperme visqueux. Pourquoi, sacre Dieu, n'ai-je pas ta langue dans ma chatte alors que c'est mon plus ardent désir? Pourquoi je sens pas la chatouille douloureuse de ta morsure sur la plante de mes pieds? Pourquoi je peux pas te tendre mon cul pour que tu le possèdes, le morde, l'étrille et l'arrose de ton sperme? Pourquoi je peux pas ensuite, étendu auprès de toi, parler de n'importe quoi depuis la philosophie jusqu'à l'immortalité du hanneton dans cette évidente intimité où nous sommes à la place qui nous revient tout en branlotant ta queue juste par excès d'exubérance? Pourquoi est-ce que je peux pas me coucher sur toi dans la jubilation d'une tendresse presque asexuée et tout en faisant l'amour parler de ce que nous avons mangé à dîner ou du temps qu'il fait? Pourquoi est-ce que je peux pas te mettre à plat ventre et baiser ton cul de mes mains, te foutre en téton, te foutre en bouche, te poisser de mon con qui mouille rien que d'y penser, pincer ton cul tendrement, le rosser, le faire rougir comme une fillette impubère qui se ferait surprendre dans un parc par un exhibitionniste dépravé qui lui montre sa bite? Pourquoi est-ce que je peux pas m'amuser avec ton trou en lécher tendrement les plis et y fourrer mon doigt, y introduire mes deux tétines et frotter lentement à tes globes au point de faire dresser ta queue et tuméfier tes couilles? Ah, je voudrais te coucher sur le dos et te mordiller les tétons, lécher le fond de ton nombril et prendre tour à tour chacune de tes couilles dans ma bouche jusqu'à te faire geindre, haleter et péter d'excitation. Pourquoi je peux pas là, maintenant, là, tout de suite, prendre ta bite et me la fourrer sous l'aisselle, l'enrouler de mes cheveux et tirer sur sa peau en la tenant entre mes pieds, lui tailler une pipe avec les dents, la laisser retomber, me la fourrer dans le cul, la ressortir pour l'enfoncer dans ma chatte avant de lécher sur elle mon propre jus? Pourquoi est-ce que je peux pas te pomper et faire passer ton sperme de ma bouche jusqu'à la tienne pour te le faire avaler et que tu t'engoues de son goût pénétrant qui me reste toujours sur la langue après, si bien que toutes les bouffes ont la saveur de ta queue? Et quand je mange une tartine de pain et de beurre, ça a le goût de ton foutre. Pourquoi je peux pas là te mettre sur le dos et enfoncer mes tétons dans ta bouche pour que tu les suces avec la mine d'un nourrisson, les yeux fermés en claquant de la langue avec délectation? Et ensuite, m'agenouiller au-dessus de toi, la chatte tuméfiée d'avoir trop baisé, et te laisser la lécher et la fouir de tes mains au point que tout mon corps se cabre et se pétrifie, et que je te pisse dans la gueule parce que tous mes muscles se sont relâchés, et encore t'exciter la plante et l'entre-doigt de pied avec mes nichons, juste un peu en passant, mais à fond, jusqu'à ce que ça te foute en rogne, et que tu colles ta bite dans ma bouche, couille comprise. Pourquoi est-ce que je peux pas mettre mes jambes sur tes épaules et offrir mon trou à ton regard et te laisser examiner ma chatte avec une froide impudicité et tirer sur ses lèvres et ses poils de cyprès que je sente ton souffle et que je te jute dans l'entremise de ta langue, ou te faire un suçon sur le cul et m'attarder si longtemps que tu te mettes à te tordre sur le lit et à mordre la couverture si longtemps que ta bite se dresse et qu'elle se recouche sans savoir gicler, que tu me repousses de tes mains et que tu m'arraches les cheveux et ensuite enfoncer ma langue bien profonde dans ton cul jusqu'à sentir le goût de ta merde. Et quand ton cul se taillera de peur de te chier dessus, pourquoi est-ce que exaspéré par cette peur, je ne peux pas t'y foutre un doigt et l'y faire tourbillonner jusqu'à un orgasme qui fera s'échapper de tes trous tout ce qu'ils contiennent? Pourquoi est-ce que tu n'es pas là pour me mettre sur le ventre et me faire rougir le cul comme un œuf de Pâques jusqu'à ce qu'il laisse perler des gouttelettes de sang? Stop. des gouttelettes qui feraient des croûtes que je sentirais sur les fesses pendant des jours et des jours. Pourquoi t'es pas là pour me faire un suçon au creux de la clavicule, un suçon qui ferait tuméfier et durcir ma chatte comme du pain rassis quand elle froufroutera lors d'une minette? Pourquoi tu n'es pas là, étendue, ensuite près de moi, à me caresser en me disant: tu sais, ma belle, avec cet air que tu prends de temps en temps, cet air et ce ton auquel je comprends tout, à me caresser les cheveux, me gratouiller derrière les oreilles, avec un zeste d'humour, et m'assurer que si la Klimolovka habitait à Prague et non à Brno, tu irais la rejoindre à la seconde. Parce que ça, c'est tout de même un peu trop, hein, pour toi, bordel. Hein, les choses seraient peut-être un peu plus calmes avec la Klimilovka. Au plus profond de moi, ça me ferait rougir d'orgueil. Et j'en viendrais presque à le vouloir que tu ailles l'essayer. Voir si ce plus tranquille te fait du bien. Et ça me ferait pouffer sous cap de t'imaginer te précipitant pour venir me retrouver et me monter dès que tu auras sorti ta queue de cette Klimilovka et postillonnant de rage. De voir comment ce plus tranquille ne t'a servi à rien d'autre qu'à revenir ici. Pourquoi je ne peux pas baiser avec toi en utilisant tout notre vocabulaire obscur et vulgaire, tous ces mots qui engorgent la bouche et me laissent ensuite étreindre chastement et presque pudiquement, avant qu'on se mette à se bidonner comme des fous et qu'on se rentre dedans à coups de ventre et de cul en éclatant d'un rire hystérique? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas là, côte à côte sur le flanc, à nous sucer en nous concentrant sur notre propre orgasme et celui de l'autre, sans dire lequel nous exciterait le plus? Et que je n'entends pas ton « attends » quand j'ai ta bite dans la gueule, et que je ne peux pas te mettre en boîte en te voyant si avare de ton sperme et de tes orgasmes, et quand tu as balancé ta sauce, te prouver que ta parcimonie n'a vraiment aucun sens? Et encore, te lécher, éreinter, presque impuissant, te sucer et t'exciter en te taillant une pipe d'une heure, interminable et épuisante, une pipe qui culminerait en un spasme plus douloureux qu'orgasmique, qui exacerberait tes sens jusqu'au désarroi, et où tantôt tu verrais le monde avec tant de clarté que ce serait comme si quelqu'un d'autre était étendu à ta place. Et tantôt tu te laisserais aller à mon excitation et ferais d'infimes soubresauts, un peu parce que ça te ferait jouir et un peu parce que tu essaierais de t'exciter en faisant semblant de jouir. Et pourquoi est-ce que je ne me réveille pas ensuite auprès de toi pour te monter, les yeux tout ensommeillés dans une espèce de léthargie, et te sauter en profitant de ton érection matinale qui ne vient pas seulement du désir, te sauter à moitié endormi et un peu déconcerté, et te cramponnant des deux mains à mes nichons, et encore pour te voir te lever le matin et te laisser faire, parce que tu t'imagines que je me suis rendormie, et te surprendre nu à te gratter le cul, et t'apprêtant à te rhabiller paisiblement, te laisser enfiler quelques conneries du genre caleçon et chaussettes, afin, avant de te sauter dessus, de t'arracher tout ça et de te faire l'amour à même le sol, si brutalement que ça te fasse passer l'envie de te mettre quelque chose sur le dos, me coucher par terre et me caresser, et m'exciter lascivement les dimbards et la chatte, et me masturber devant toi au point que tu te ferais jouir contre mes cuisses ou mon cul, et ensuite t'allumer en faisant semblant de ne plus avoir envie de baiser alors que tu es chauffé à blanc, te brinque-baller la queue et te poignasser les couilles, te licher et regarder d'un air indifférent ta bite se mettre au garde-à-vous, te laisser un peu tenter toutes les stratégies possibles depuis le pelotage jusqu'à une insistance presque quémandeuse, te tirailler la barbe et la queue d'un air indifférent et te souffler sur les couilles pour te provoquer au maximum jusqu'à ce que tu en aies tellement marre que tu me foutes une dérouillée sur le cul et que tu me fourres ta queue partout, c'est possible, dans la gueule, entre les nichons, dans le cul, dans la chatte, tête et que tu finisses par m'arroser de la tête aux pieds, au point que je n'ai plus qu'à me précipiter dans la baignoire, me mettre sous le jet d'eau et me frotter, cheveux compris, à rentrer dans la salle de bain où tu rentrerais à ma suite et tu me lècherais le con au point de te remettre à gicler. Pourquoi je ne peux pas, nue avec toi, nue, préparer ensuite le petit déjeuner, un déjeuner opulent et substantiel, en agitant mes tétons au-dessus de la poêle aux œufs, et discuter ensuite de comment améliorer notre cuisine, puis manger en ta compagnie, confortablement affalée côte à côte, en nous félicitant d'avoir si bien cuisiné et en saussant la poêle avec du pain chacun de notre côté, et nous étendre l'un auprès de l'autre, repu et heureux, jusqu'à en haleter, tout nous tenant par la main et bavardant avant de recoucher ensemble, cette fois-ci d'une façon si absolument normale qu'elle n'a presque rien à voir avec nous, moi dessous, les jambes relevées et toi au-dessus de moi, dans un rythme régulier, en position de l'ange, celle où on peut s'embrasser et où la seule perversion est celle des langues à coller. Un coït qui se prolonge, mais sans fatigue, dans la proximité la plus complète et la plus tangible qui soit. Un coït dont on interrompt par moments le rythme que par un repos qui en recule encore un peu plus l'apogée. Et ce n'est pas par lésinerie, et cela se fait dans un accord évident. Un coït où nos corps s'entrechoquent jusqu'à se coller l'un contre l'autre sans un interstice ou glisser la main pour se caresser, et dans lequel une légère crispation ne s'introduit que juste avant la jouissance. Et pourquoi ne nous reposons-nous pas ensuite côte à côte, les yeux fixés au plafond et presque sans penser à rien, ou avec des pensées qui vagabondent au loin? Non que nous ne voulions pas penser à nous, mais parce qu'elles sont gagnées par une fatigue léthargique qui supprime la censure des sens en éveil. Pourquoi ne nous reposons-nous pas ainsi l'un auprès de l'autre? Je voudrais vraiment, vraiment le savoir. Et si quelqu'un peut me donner une explication, il me rendra vraiment service, étant donné que je ne me l'explique pas à cette heure, car je mouille et je suis chaude et que je te désire là, maintenant, tout de suite. Et je ne suis sans doute pas trop accessible à aucune explication. Du reste, je comprendrai tout ça demain matin, pas de problème. Mais je ne cesserai de regretter cette nuit, je n'y peux rien, je n'ai pas appris à considérer l'excitation comme quelque chose qu'il faille supprimer dans le renoncement et chasser comme le diable. Et j'estime qu'un désir aussi fort que le mien aujourd'hui ne se contente pas d'attendre sa satisfaction, mais la revendique à corps et à cri, et n'accepte ni assaise ni renoncement. Je n'ai pas reçu la capacité de m'exciter à ce point, de sentir sur chaque centimètre de ma peau ce désir fou que j'ai de toi, pour le chasser à coups de douche froide et de jeûne. Non merci, permettez-moi de passer mon chemin. Et si ce sont là les leurres du diable, alors ce diable commence à m'être tout à fait sympathique. Sauf que ça n'a rien à voir avec un diable quelconque, rien à voir même avec la dépravation. Même s'il faut avouer qu'un observateur neutre pourrait le voir ainsi, mais il ferait erreur. Car c'est tout à fait juste et naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est tout bêtement que tu ne sois pas là et que tout cela ne puisse se réaliser totalement tel que je le décris, et peut-être même au-delà. Si je ne voulais pas écrire, entre autres, pour subvenir à mes besoins, je me mettrais à rédiger ces mémoires là. Mais bon, j'ai peur que ça ne tombe en de mauvaises mains, et on pourrait se demander si je suis bien la bonne personne pour éduquer les foules sous le socialisme, et si je ne risque pas de parachever prématurément la révolution culturelle. Bon, mais ça me ferait certainement jouir à l'extrême, Et je continue à penser que nos vies sont un brillant chef-d'œuvre artistique et qu'à ce titre, elles devraient être conservées pour les générations futures, du moins sous forme d'une description gaillarde. J'ai aussi réalisé quelle immense aptitude à vivre nous possédons. Je ne veux pas seulement dire que nous avons refusé de collaborer dans les temps les plus durs, mais que nous ne nous sommes pas contentés d'y survivre. Nous avons su les utiliser et en tirer parti, que nous avons su les goûter et en faire notre miel, car c'est seulement en cela que réside la vraie viabilité. Survivre dans ce monde, même dans les circonstances où nous avons survécu, c'est de l'instinct de conservation pur et simple. Même si cet instinct est parfois très fort et très puissant, mais éviter que cela ne fasse de vous un mort-vivant, ça, c'est quelque chose dont je dois remercier humblement le bon Dieu avec une réelle gratitude. La vie en elle-même n'est pas un cadeau. En elle-même, la vie est un enfer absolu. Mais ça, c'est plus qu'un cadeau. C'est peut-être quelque chose qui porte qu'un seul nom, la grâce. Et s'il est quelque chose qui me remplit d'optimisme et d'un espoir véritable, non l'espoir en quoi que ce soit, mais l'espoir en tant que tel, au sens le plus profond du terme, tel que j'en ai besoin pour être sauvé, tel qu'il est nécessaire à tout un chacun, c'est la certitude de cette grâce. Certitude empirique, apportée par le vécu, non la certitude que nous avons reçue la grâce, mais simplement que la grâce existe. Qu'elle existe dans cet univers, sur cette terre, pour ces êtres singuliers, dotés de toutes les qualités possibles et inimaginables, et de l'incapacité d'en user, des êtres qui ressemblent à Dieu et ont été créés à son image pour l'outrager et le célébrer, sans qu'aucun d'eux, aucun de nous, les humains, ne puisse se représenter même le plus confusément celui dont il ne se distingue pas plus que deux petits pois dans une cosse. L'homme n'a besoin ni de foi ni de vertu pour être sauvé. Je suis sûre et certaine qu'un jour nous serons surpris par le nombre d'hommes que leur conduite vertueuse a conduit à la damnation. Mais il lui faut de l'espoir, un espoir véritable, sans aucune sorte d'assurance, un espoir qui ne le garde pas de la désespérance, qui ne le protège pas contre la perte monstrueuse de toutes les valeurs humaines. Un espoir qui ne le protège de rien, même pas de la damnation, mais qui l'emportera un jour quelque part, là-haut ou en bas, ou je ne sais où, ou la seule valeur véritable dont il est détenteur. Il n'est pas donné à tout le monde de recevoir cet espoir avec la même certitude que nous, c'est pourquoi je parle d'une grâce. Non, ce n'est vraiment pas donné à tout le monde. Si tu me demandes encore une fois de t'écrire 5 ou 6 lignes, je te casserai la gueule, sans émoi sexuel, mon chéri. J'espère que ce sera clair dans cette lettre. Hein, ou je t'enverrai 6 lignes pour de bon et j'ai vraiment très envie de voir quelle tête tu feras. Alors ça vaut vraiment le coup d'exaucer les vœux de quelqu'un. Porte-toi bien en attendant. Bon, cette fois-ci, ça fait que 12 jours. Hein. Ce sera donc plus facile de 2 jours. Mais putain, bordel, ça fait 13 ans que nous nous connaissons et nous déconnons encore comme les amants de la chartreuse de Parme. D'accord, c'est rigolo, mais c'est ainsi. Et je crains que nous ne nous déchaînions encore davantage lorsque nous serons ce petit vieux sénile avec cette petite vieille sénile. Nous avons tout ce qu'il faut pour ça. Et ne crois pas que j'exagère. Voilà de belles perspectives pour nous deux. C'est une intellectuelle vieillie, cynique et honnête qui te le dit. Ben nous évoquerons les guerres atomiques en nous bidonnant au souvenir de cette rigolade de voir des boyaux couler le long de la Narodithrida. Et s'il nous faut nous séparer l'espace de 2 heures, des larmes couleront à torrents de nos yeux éteints. Fais-toi donc vite du bien en t'accordant une bonne branlette. Si tu ne l'as pas encore fait. D'une part pour pouvoir sortir parmi les gens, d'autre part pour ne pas être obligé de prendre un taxi jusqu'à Oloskovitch en brandissant ta queue dans ton poing. Et si tu en as envie, Écris-moi pendant ces 12 jours 5 ou 6 lignes, mon amour. Je viens de relire ce que j'ai écrit et ça m'a fait peur. Mais bon, je vais plus rien ajouter en fait d'explication. Alors je me contenterai peut-être de dire encore que tel que c'est dit et écrit, cela contient évidemment tout. Donc même les étreintes les plus banales et les plus tendres. Même le fait de se tenir la main et de se caresser les cheveux avec la plus grande délicatesse, la plus grande tendresse et tous les autres faits et gestes accomplis banalement par les amoureux. Ne l'oublie pas, garde-le à l'esprit pour que cette lettre ne te donne pas l'impression qu'elle reflèterait le besoin de concrétiser quelque émotion neuro-pathologico-sexuelle, même s'il y va aussi de ça. Bien entendu, mais pour ainsi dire, étrangement, sans pathologie, plutôt avec amour. Mais peut-être que tu comprendras tout ça sans commentaire, et si tu ne comprends pas, alors ça voudra dire que, que c'est de la merde, et qu'il ne sert à rien de la commenter. Et je serai obligée de t'expliquer cela quand nous nous verrons pour de vrai, mon chéri. Ainsi, je te laisse prendre des décisions, mais ne traîne pas trop. Nous avons beau avoir une grande force qui vient de la pensée philosophique. Nous avons beaucoup de temps et beaucoup de certitudes, car nous nous aimons très fort et nous ne nous sommes pas pressés. Mais bordel, nous sommes aussi des êtres humains. Enfin, pas seulement des êtres humains. Comme on dit, au contraire, justement des êtres humains, avec tout ce que cela comporte. Même cette chose énorme qu'est un amour comme le nôtre. Donc, nous devons peut-être veiller un peu sur lui et ne pas le traiter à la légère comme on le ferait d'un batifolage dérisoire et insensé tel qu'il affecte ceux qui ne sont que des êtres humains. Salut. 11A.
On enchaîne après cette pause et ce magnifique texte de Jana Serna avec une petite brève de la compagnie Les Soupirs Hachés.
Et je veux jouer à cache-cache et te donner mes vêtements et te dire que j'aime bien tes chaussures et m'asseoir sur les marches pendant que tu prends ton bain et t'embrasser le cou et te masser les pieds et te tenir la main et sortir dîner sans m'énerver quand tu manges dans mon assiette et te retrouver au restaurant et te parler de la journée et taper ton courrier et te porter tes affaires et rire de ta paranoïa et te donner des cassettes que tu n'écoutes pas, et regarder des films épatants, et regarder des films nuls, et me plaindre de la radio, et prendre des photos de toi quand tu dors, et me lever, pour aller chercher du café et des croissants et des feuilletés, et aller au café à minuit et te laisser me voler mes cigarettes sans jamais être fichu de te trouver une allumette, et te parler du programme que j'ai vu la veille à la télé, et t'emmener à la clinique des yeux, et ne pas rire à tes blagues, et avoir envie de toi le matin, mais te laisser dormir, et t'embrasser le dos, et te caresser la peau, et te dire comme j'aime tes cheveux, tes yeux, tes lèvres, ton cou, tes seins, ton cul, ton... Et fumer. Assise sur les marches jusqu'à ce que ton voisin rentre, et fumer assise sur les marches jusqu'à ce que tu rentres, et m'inquiéter quand tu es en retard, et m'émerveiller quand tu es en avance, et te donner des tournesols, et aller à ta fête et y danser et en devenir bleu, et me trouver désolée quand je suis dans mon tort et heureuse quand tu me pardonnes, et regarder des photos de toi, et désirer t'avoir toujours connue, et entendre ta voix dans mon oreille, et sentir ta peau contre ma peau, et avoir peur de tes colères quand tu te retrouves avec un œil tout rouge et l'autre bien bleu, tes cheveux du côté gauche et ton visage qui prend un air oriental, et te dire que tu es splendide, et te serrer contre moi quand tu es anxieux, et t'étreindre quand tu as mal, et te vouloir rien qu'à sentir ton odeur, et te blesser quand je te touche, et gémir quand je suis à tes côtés, et gémir quand je ne le suis pas, et bavoter sur ton torse, et te recouvrir dans la nuit et avoir froid quand tu tires la couverture et chaud quand tu ne le fais pas, et m'attendrir quand tu souris et fondre quand tu ris, et ne pas comprendre pourquoi tu penses que je te rejette quand je ne te rejette pas, et me demander comment tu peux bien penser que ça pourrait un jour arriver, et me demander qui tu es mais t'accepter de toute façon, et te parler du garçon arbre et ange à la fois, de la forêt enchantée qui a traversé l'océan parce qu'il t'aimait, et t'écrire des poèmes, et me demander pourquoi tu ne me crois pas, et éprouver un sentiment si profond que je ne trouve pas les mots pour l'exprimer, et avoir l'idée de t'acheter un chaton, et j'en serais jalouse parce que tu t'occuperais plus de lui que de moi, et te garder au lit quand tu dois t'en aller, et pleurer comme un bébé quand tu finis par le faire, et me débarrasser des cafards, et t'acheter des cadeaux dont tu ne veux pas et que je remballe, comme d'habitude, et te demander en mariage pour que tu me dises non comme d'habitude et que je recommence malgré tout, parce que même si tu penses que je ne le souhaite pas pour de bon, c'est exactement ce que je veux depuis ma toute première demande. Et errer dans la ville en trouvant que sans toi elle est vide, et vouloir ce que tu veux, et me dire que je me perds, mais tout en sachant qu'avec toi je suis en sûreté, et te raconter ce que j'ai de pire, et te donner ce que j'ai de mieux, parce que tu ne mérites pas moins, et te dire la vérité quand je n'y tiens vraiment pas, et répondre à tes questions quand je ne veux vraiment pas, mais chercher à être honnête parce que je sais que tu préfères, et me dire tout est fini, mais tenir encore 10 petites minutes avant que tu ne me sortes de ta vie, et oublier qui je suis, et chercher à me rapprocher de toi parce que c'est beau d'apprendre à te connaître et ça mérite bien un effort. Et m'adresser à toi dans un mauvais allemand et en hébreu, c'est encore pire. Et faire l'amour avec toi à 3 heures du matin et peu importe comment, mais communiquer un peu de irrésistible, immortel, invincible, inconditionnel, intégralement réel, pluri-émotionnel, multi-spirituel, tout fidèle, éternel amour que j'ai pour toi. Merci. C'était un texte de Sarah Kane, un extrait d'une pièce qui s'appelle Manque.
Love Me.
Tender.
2016.
En direct de la cave Poésie.
Live. Rue du Thor.
Live Me.
Tender.
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 Donc ce poème pour ma fille Annette et son père David, donc ma fille Milena. Donc c'est un poème issu des lettres de Kafka, Franz Kafka, à Milena Jesenska. Donc on retourne un peu à Prague pour un amour un peu plus platonique. Chère Madame Milena, je vous ai écrit un billet de Prague, puis de Merano. Je n'ai reçu aucune réponse. Il est vrai que les billets ne nécessitaient pas une réponse particulièrement rapide. Et si votre silence n'est rien d'autre que le signe d'un relatif bien-être, qui s'exprime souvent par le rejet de l'écriture, alors je suis très content. Mais il est aussi possible, c'est pour cela que je vous écris, que j'ai pu vous blesser de quelque façon dans mes billets. Quelle main grossière contre mon gré que la mienne! Si cela s'était passé ainsi, ou même, ce qui serait encore pire, que le moment de respiration tranquille évoqué dans votre lettre soit déjà passé, et qu'un temps mauvais soit revenu pour vous. Quant à la première possibilité, je ne sais pas quoi en dire, tant c'est loin de moi, tant ce que je souhaite, tout le contraire. Quant à la seconde possibilité, je ne donne pas de conseils. Comment pourrais-je conseiller ? Mais je vous demande simplement, pourquoi ne quittez-vous pas un peu Vienne ? Vous n'êtes pas sans patrie comme d'autres gens. Un séjour en Bohême ne vous donnerait-il pas de nouvelles forces ? Et si pour quelque raison que je ne connais pas, vous ne souhaitez pas venir en Bohême, alors ailleurs peut-être ? Peut-être même que Merano conviendrait, la connaissez-vous? J'attends donc deux choses. Ou la continuation du silence, ce qui signifie « pas de soucis, tout va bien pour moi », ou quelques lignes. Très cordialement, Kafka. Je me rends compte que je ne parviens pas à me souvenir d'aucun détail précis de votre visage. La façon dont vous êtes sorti du café en passant entre les tables, Votre silhouette, votre vêtement, cela je le vois encore.
C'était un petit imprévu comme ça d'une spectatrice de la salle. Donc si vous avez envie vous aussi de venir dire quelques textes, n'hésitez pas, on essaiera dans les interstices de les mettre.